Bonjour à tous. L'Ukraine se réveille avec un nouveau président et c'est un comique. Le comédien Volodymyr Zelensky l'emporte largement, très largement, après une campagne faite de blagues et de dérisions portraits dès le début de ce journal. Nous ferons le point aussi sur la situation au Sri Lanka. Des bombes ont explosé dans des églises en pleine messe de Pâques. Et des hôtels de luxe ont aussi été visés. Le bilan, toujours provisoire, est déjà très lourd, près de 300 morts. Et puis à suivre également dans ce journal, l'amertume des forces de l'ordre. Elles ont dû faire face à des appels au suicide pendant la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Une enquête est ouverte. D'humoriste à président de la République, Volodymyr Zelensky remporte la présidentielle en Ukraine. Le comique écrase le sortant Petro Poroshenko avec plus de 72% des voix. Et aussitôt élu, Nathanaël Charbonnier, Volodymyr Zelensky a fait ce qu'il sait faire, rire.
C'est avec la télévision que Zelensky s'est fait connaître et c'est par la télévision qu'il est devenu hier le nouveau président ukrainien.
3, 2, 1.
Volodymyr Zelensky, Vladimir en russe, comique de profession, acteur et pitre au sourire en coin, a pris la parole aussitôt élu pour remercier ses électeurs. Nous l'avons fait ensemble. Zelensky a commencé ses remerciements en rappelant son slogan de campagne. Ensuite, il a remercié sa famille, sa femme, ses équipes. Le moment est historique pour le nouveau président et pourtant tout semble hésitant. Zelensky lit un papier alors que des confettis tombent du ciel. Un discours d'une minute trente qui ressemble plus à une cérémonie des Césars qu'à un discours politique. L'ancien comique, aujourd'hui président, est toujours souriant mais semble dépassé par le moment historique qui s'impose à lui. À 41 ans, après une campagne faite de blagues et de dérisions, Zelensky va maintenant se retrouver rapidement confronté à la réalité. Lors d'une mini-conférence de presse, il a expliqué qu'il voulait relancer le processus de paix impliquant la Russie et visiter l'Ukraine à la rencontre du pays. Un peu plus loin dans Kiev, Petro Poroshenko, le président sortant, est vaincu. Prenait lui aussi la parole pour saluer la victoire du nouveau président ukrainien. Le passage de témoins se fera dans le mois à venir.
Nathanaël Charbonnier à Kiev pour France Culture. En Macédoine, on en est qu'au premier tour de la présidentielle. Le candidat pro-européen Stevo Pandarovski est donné en tête avec un peu plus de 40% des voix, juste devant la candidate de l'opposition. Un dimanche de Pâques sanglant au Sri Lanka. Une vague d'attentats a fait au moins 290 morts dans des églises et des hôtels de luxe. Près de 500 personnes sont blessées. En quelques heures, les bombes ont semé la mort en plusieurs endroits de l'île et cela ravive de douloureux souvenirs. Raoula Atalage est professeur d'université à Colombo, la capitale.
Le gouvernement a immédiatement déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Les leaders religieux de toutes les confessions, le président et le premier ministre, ont demandé à la population de rester calme et unie pour essayer de trouver les responsables de ces attentats qui veulent déstabiliser le pays. Même pendant les 30 ans de guerre civile, le Sri Lanka n'avait jamais connu de telles attaques simultanées en si peu de temps. Les gens pensaient que les choses avaient changé depuis la fin du conflit il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve à nouveau plongé dans la même situation que pendant la guerre, quand il fallait être vigilant et faire toujours attention à ce qui se passait autour de nous. C'est très difficile à gérer.
13 personnes ont été arrêtées, 13 hommes, ils appartiennent tous au même groupe radical selon les premières informations, mais on ne sait pas encore quels sont leurs liens avec ces attaques, aucune revendication pour l'instant. Ce qui semble assez clair en revanche, Audrey Tison, c'est la cible de ces attaques, la communauté chrétienne du Sri Lanka.
Des chrétiens très minoritaires dans le pays. Seulement 7% de la population, une communauté réputée pacifiste. Pourtant, elle avait déjà été ciblée ces dernières années.
Depuis 2009, on assiste à la multiplication des actes contre cette communauté. Pas des actes de grande ampleur, mais des avanies quotidiennes.
Anthony Gros-Ponceau est enseignant-chercheur à Bordeaux. Il nous répond depuis l'Inde. D'après lui, tout se passe comme si on cherchait des boucs émissaires depuis la fin de la guerre avec les Tamouls. Les musulmans ont été plusieurs fois attaqués par des extrémistes bouddhistes. Cette fois, ce sont les chrétiens qui sont visés, peut-être parce que cette religion a des croyants dans différentes parties de la population.
Les Singhalais sont chrétiens, mais également les Tamouls. Donc les chrétiens sont les seules personnes à unifier en fait la communauté, à unifier les antagonismes antérieurs entre Singhalais et Tamouls. Je ne serais pas étonné que les attentats soient revendiqués par un groupe plus que le musulman, mais je ne voudrais pas faire non plus de la prospective.
Cette piste islamiste est en effet envisagée par les enquêteurs. Le groupe NTJ notamment préparait des attentats contre des églises d'après les services de renseignement. D'autres pistes sont ouvertes, comme celle d'extrémistes bouddhistes qui chercheraient à semer la terreur dans le pays.
Audrey Tison. Une nouvelle attaque djihadiste au Mali. 11 soldats ont été tués hier près de la frontière mauritanienne. Il y a un mois, une autre attaque djihadiste contre un camp de l'armée à Dioura, dans le centre, avait déjà coûté la vie à près de 30 soldats maliens. La situation se tend au Soudan. Les responsables de la contestation suspendent les discussions avec les militaires. Ils appellent dans le même temps à intensifier les manifestations pour réclamer un pouvoir civil. On y revient dans le journal de 7 heures sur France Culture. La garde à vue de Carlos Ghosn touche à sa fin au Japon. À la clé pour l'ancien patron de Renault-Nissan, sûrement une nouvelle mise en examen pour détournement de fonds. Elle s'ajoute à la plainte déposée ce matin par Nissan, une plainte au pénal pour abus de confiance aggravé. Le sujet pourrait s'inviter dans les discussions entre le président Emmanuel Macron et le premier ministre japonais Shinzo Abe, attendu en France en fin de journée. Les mots ont provoqué l'indignation. Suicidez-vous. Voilà ce qu'on a pu entendre dans la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris, comme un slogan lancé aux forces de l'ordre alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. Une enquête est ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Christophe Rouget est secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCCFDT.
Nous réclamions cette enquête. Elle est nécessaire. Nous sommes dans un contexte de fatigue physique très lourd, lié à 23 semaines de conflit social. Nous sommes dans un contexte de fatigue morale, parce que nous faisons l'objet en permanence de critiques au quotidien. Notre travail est remis en cause sur la gestion du maintien de l'ordre. Donc cette enquête, elle était nécessaire dans un contexte d'une vague de suicides sans précédent dans la police nationale, qui touche depuis le début d'année tous nos collègues sur l'ensemble du territoire. Et je crois que cette enquête, elle devra permettre d'identifier ces individus qui étaient en réunion, ce qui est d'autant plus grave, de les sanctionner, mais qu'au-delà de cette sanction pénale, qui devra être forte, le plus important est de mettre nom sur des visages, sur l'abject, sur l'ignominie.
Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Après ce 23e samedi de mobilisation, le président doit faire ses annonces de sortie de crise cette semaine, jeudi à 18h normalement. Emmanuel Macron devrait confirmer les mesures qui ont fuité dans la presse la semaine dernière et donner un nouveau cap au quinquennat, Élodie Forêt.
Face aux journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, il y aura d'abord des propos liminaires dont le contenu reste secret. Le président a la primeur, esquive un conseiller. Un président très attendu notamment par sa majorité. La semaine dernière, les annonces qui ont fuité sont apparues comme un catalogue de mesures, se désole une députée LREM. Jeudi, il faudra donc donner du sens, une cohérence politique. Voilà ce qu'on a déjà fait, voilà où sont nos priorités et comment nous allons changer de méthode. Redonner du sens donc et préciser les mesures sur la suppression de l'ENA par exemple, très critiquée ces derniers jours, alors qu'il ne s'agirait pas réellement d'une suppression mais plus d'une refonte, glisse un élu. Un discours qui sera suivi d'une séance de questions-réponses avec les journalistes, un exercice inédit pour Emmanuel Macron, le président désormais adepte du débat et de la consultation, qui pourrait aussi confirmer jeudi la tenue prochaine d'une conférence sociale et environnementale en plusieurs épisodes. Prolonger la séquence et égrener les réponses comme un remède à la déception.
Élodie Forêt. Malgré ces annonces, certains gilets jaunes ont prévu de ne rien lâcher. À Saint-Nazaire, ils sont une vingtaine à occuper illégalement les anciens locaux de Pôle emploi, rebaptisés la Maison du Peuple. Ils vont quitter les lieux demain, mais ce n'est pas la fin de la lutte. Bien au contraire, Ludovic est l'un des représentants de la Maison du Peuple.
On pensait être parti pour un sprint, en fait on s'aperçoit qu'on part pour un marathon. C'est un peu ça l'enjeu là maintenant, c'est qu'on arrive à se poser, à trouver un rythme qui nous permette de tenir plus longtemps, puis de retrouver des façons d'exister matériellement maintenant que cette Maison du Peuple va disparaître.
Et continuer pour faire quoi ?
Continuer pour essayer de continuer à dire haut et fort ce qu'on pense de tout ça, pour continuer à pas laisser Macron et sa clique faire ce qu'ils veulent tranquillement dans l'indifférence générale, continuer à être le poil à gratter, continuer à essayer de secouer un peu cette société pour que les gens se réveillent, ouvrent les yeux, aient envie de sortir de l'impuissance, envie de sortir de la déprime chacun pour soi, retrouver du collectif. Voilà, nous on a vécu ça et on sait que c'est de ça dont notre société a besoin et donc c'est ça qu'on va essayer de lui amener comme on peut.
Témoignage recueilli pour France Culture par Anne Patinec. Ça souffle sur la Corse du Sud, placée en vigilance orange pour vent fort. Ailleurs, le temps reste printanier, malgré pas mal de nuages et quelques averses du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Côté température, le thermomètre dépasse facilement les 20 degrés cet après-midi.